6h30. France Inter.
La différence.
Il est 15h03, c'est l'heure de retrouver là-bas si j'y suis. Daniel Mermet.
Oui, bonjour Daniel. Bonjour tous les AMG et les auditeurs de là-bas. Bah écoute, on apprend là la mort de Philippe Séguin, un des rares mecs de droite un petit peu haut placé, qui critiquait ouvertement la politique budgétaire du gouvernement actuel. Donc tu vois, j'ai l'impression que les esprits ne sont pas avec nous.
Salut, c'est Quentin sur la route. J'étais en train d'écouter votre émission sur les labos pharmaceutiques et j'entendais qu'ils s'invitent à l'Assemblée nationale. Il faut savoir qu'ils sont depuis longtemps dans les facs de médecine. Et donc quand vous êtes étudiant, vous pouvez passer un examen blanc en public. Et si vous payez, eh bien vous pouvez en passer deux ou trois, sponsorisés par Novartis, etc. Et voilà, c'est l'égalité devant l'information. Salut, salut, courage à tous.
Meilleurs voeux à toute l'équipe, à Daniel et à tous les VMG. Rappel aux VMG du Pas-de-Calais. Nous avons rendez-vous ce jeudi 7 à Monchy-Breton, chez Tartous et compagnie, à partir de 18h30. Fabienne nous y attend, on n'aura pas de sujet précis. Par contre, une discussion à bâton rompu avec tous les habitués du café autour de Galette des Rois. Venez nombreux.
Bonjour, je vous appelle pour réagir au propos. Hier soir, j'ai entendu sur France Inter Jean-François Copé. Donc le sujet de l'émission, c'était la burqa et notamment l'éventualité d'une loi qui interdirait le port du voile. Et voilà, donc à un moment donné, le journaliste demande concrètement à Jean-François Copé comment s'y prendrait-il pour justement interdire la burqa. Donc lui avait pensé les verbaliser par les agents de police. Alors moi, je voudrais dire, je suis garant de la paix. Donc quand j'ai entendu ça, j'ai eu plusieurs réactions. J'imaginais la scène, je me voyais forcément dans des quartiers pauvres, populaires, quartiers sensibles, croiser une dame, lui demander de retirer, lui faire la morale, etc., lui faire un rappel à la loi. Je vous dis pas la scène, enfin c'est d'une stupidité. Voilà, quand on entend une idiotie pareille, on même en tant que policier, on réagit, quoi.
Bonjour à tous, et en particulier aux habitants de la région de Montbrison dans le département 42. Pour bien commencer l'année 2010, comme nous avions fini 2009, nous vous donnons rendez-vous au troisième café repère de là-bas si j'y suis. Il aura lieu le jeudi 7 janvier à 19h, et comme pour le précédent, nous nous retrouverons à l'Afro-Cuban Pub, 1 Faubourg de la Madeleine à Montbrison. Venons nombreux, et qu'on se le dise selon la formule consacrée. Au revoir.
Oui, bonjour les AMG, salut Daniel. Je réécoute avec plaisir l'émission sur les laboratoires pharmaceutiques et je note une deuxième fois, j'avais déjà noté la première, la réponse de Roselyne Bachelot à la journaliste qui lui demande simplement « Est-il exact que vous avez été porte-parole d'un laboratoire pharmaceutique ou employé d'un laboratoire pharmaceutique ?» Et elle répond immédiatement, et je trouve la réponse fabuleuse, « Oh, écoutez, cette accusation est répugnante. » Voilà, elle a été accusée de travailler pour un laboratoire pharmaceutique, ce qui n'est pas un crime. On peut travailler pour un laboratoire pharmaceutique, il n'y a pas de honte, mais j'ai beaucoup aimé sa réponse. Voilà. Cette accusation est répugnante. Voilà, je trouve qu'elle a tout dit, il n'y avait rien à ajouter. Voilà, c'était Frédéric à Amiens.
Bonjour Daniel, c'est Christian de Gap. Je viens de suivre votre remarquable émission sur les lobbying et en particulier les lobbying pharmaceutiques. J'ai passé un extraordinaire moment et je suis inquiet. Je suis inquiet parce que je me demande combien de temps on va vous permettre de continuer à faire des émissions de cette qualité sur des sujets de société aussi importants.
Voilà qui est bien dit. Merci pour ces messages, chers AMG. Écoutez ça. Dans un monde où la densité de population a fortement augmenté, la défécation à l'air libre est devenue malsaine. Voilà, où est-ce que je lis ça? Eh bien, je lis ça dans le monde diplomatique. Vous vous rendez compte, dans le monde diplomatique de ce mois de janvier, qui consacre un grand papier absolument passionnant. Le tabou des excréments, périls sanitaires et écologiques. Plus de 2,5 milliards d'êtres humains n'ont pas de toilettes. C'est pas mal. au lendemain d'une émission sur le gâchis formidable autour des vaccins sur la pour combattre la grippe. 2,5 milliards de personnes n'ont pas de toilettes et alors à rapprocher le fait que la diarrhée est la deuxième cause de mortalité des enfants. Ce grand papier dans le Monde diplomatique, nous n'en parlerons pas aujourd'hui au jour de notre émission avec l'équipe du Diplo, mais nous parlerons des États-Unis, mais nous parlerons du mythe renaissant de l'islam conquérant en France, le péril vert. Nous parlerons aussi d'une ville américaine, Détroit, dans le Michigan. Nous parlerons aussi du Brésil et nous parlerons aussi de... Ah, pour finir, un invité surprise dans Là-bas si j'y suis et aussi dans le Monde diplomatique. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel, c'est Laurent et Arnaud du Petit Montmartre dans le ventre de mer en Gironde à l'Aréole. C'est pour annoncer le premier repère de l'année 2010 qui se déroulera le 7 janvier. Nous aborderons tout simplement le sujet de la propagation des OGM en compagnie de Jocelyne Riffaut, représentante de la Confédération Paysanne et déléguée européenne Jamesta. Bien sûr, c'est un moment où on va profiter pour faire une petite galette repérienne qui sera offerte. Et Daniel, si tu veux, tu peux venir manger cette petite galette avec ou sans OGM. C'est comme tu veux. Bonne année à tous et tenez bon. Ciao.
Le Café Repère de Grenoble ouvrira ses portes ce soir à 18h30 jusqu'à 20h. Le débat sera libre. Soyez nombreux pour discuter, pour se mettre d'accord sur quel thème nous développerons durant les prochains mois. Donc on vous souhaite une bonne année, et puis à ce soir, 18h30, Café Resto La Bonne Heure. À bientôt.
Salut, c'est Daniel Mermet, Là-bas si j'y suis, avec, comme chaque mois, le Monde diplomatique.
Flight number 2. Arriving from New York.
Alors, nous voilà autour du numéro de janvier 2010 du Monde diplomatique, avec une interrogation que se pose à la fois le Monde diplomatique et Serge Halimi. Peut-on réformer les États-Unis ? En fait, c'est une sorte de bilan, un an après l'arrivée au pouvoir de Barack Obama. Et la formule choisie, enfin, tout ça, ça se résume, selon vous, à... moins que bien, mieux que rien.
Oui, si on veut. Oui, là.
Donc on n'a pas besoin de vos explications, voilà la conclusion.
Le reste en découle, oui. La question se pose effectivement parce qu'on va fêter, entre guillemets, le 20 janvier prochain, la première année de pouvoir de Barack Obama. Et il est certain que son accession à la Maison Blanche avait généré beaucoup d'espoir, qu'elle se produisait dans un contexte tellement exceptionnel qu'on pouvait imaginer des changements importants. D'une part parce que c'était un président démocrate, mais pas un président qui avait abjuré la plupart des idéaux progressistes qui arrivaient à la Maison-Blanche. D'autre part parce que le contexte d'ensemble, la crise de l'économie américaine, le discrédit des États-Unis sur la scène internationale, ouvrait la voie à des politiques très largement nouvelles. Il était possible d'arguer que le changement était nécessaire. Et au demeurant, comme vous en souvenez, pendant cette campagne, beaucoup de gens s'étaient mobilisés, des jeunes en particulier, qui avaient le sentiment que la politique ne servait à rien, que quels que soient les présidents, ils appliquaient la même politique, qui se disaient qu'avec cet homme, qui n'avait pas vraiment de passé d'élu très très long, qui avait été formé dans les quartiers populaires de Chicago, qui était, comme chacun le sait aussi, noir, il était possible d'espérer beaucoup. Or, un an plus tard, on s'aperçoit que les changements sont relativement modestes. Et la question qu'on doit se poser, c'est celle de savoir si, dans le cas où l'élection a mobilisé beaucoup d'Américains, où le président a été très largement élu, puisqu'il a été élu avec 8 500 000 voix d'avance, où il dispose d'une majorité dans chacune des chambres du Congrès, si les réformes sont à ce point modestes, c'est peut-être qu'il y a un problème avec le système politique américain. Peut-être que le système politique américain est construit de telle manière qu'il empêche toute inflexion progressiste.
Sauf que c'est pas la question qu'on se pose, la question est entièrement centrée sur la personnalité seule et unique d'Obama.
Voilà.
Comme s'il pouvait tout, comme s'il savait tout, comme si, c'est un petit peu comme chez nous, toute proportion gardée.
Absolument. Obama, Sarkozy, Berlusconi, il y a une focalisation maintenant sur la personne qui est à la tête de l'État et qui occulte un peu le poids des structures, le poids des contraintes économiques, qui font qu'après tout, d'une certaine manière, ils sont un peu des électrons dans un champ. Ils ont un pouvoir, il ne faut pas nier le pouvoir du président des États-Unis, mais les États-Unis restent un pays assez largement conservateur, qui même lorsqu'il a reçu un choc terrible, comme celui de la crise économique, qui a fait voler en éclats les idéaux libéraux, voit en quelque sorte cette argile conservatrice se reconstituer très vite. Et je crois que c'est une des choses qu'on a observées dans le cas d'Obama. Il est arrivé au pouvoir. Très vite, il a eu le souci d'être consensuel, de créer des bases d'accord avec les républicains. Et il s'est opposé à une fin de non-recevoir. Et le système américain est ainsi conçu que lorsque les républicains, qui contrôlent une minorité du Congrès, ont décidé de s'opposer à tout, ils peuvent bloquer un certain nombre de choses. En d'autres termes, une minorité de droite peut bloquer un certain nombre de choses, beaucoup plus qu'une minorité de gauche, parce que le pays, presque naturellement, va dans une direction conservatrice. Ronald Reagan est élu en 1980, il n'a pas de majorité au Congrès, mais très vite, il arrive à imposer un certain nombre de réformes de droite, parce qu'il y a au sein du Congrès des démocrates qui, en fait, sont achetés par les lobbies, par les milieux d'affaires, et que toutes les politiques qui vont dans le sens des milieux d'affaires bénéficie d'une force d'entraînement particulière qui fait qu'il n'y a plus grand-chose, en quelque sorte, à accomplir pour que ces priorités des milieux d'affaires s'imposent. Lorsqu'il s'agit de faire autre chose, lorsqu'il s'agit de promouvoir des réformes progressistes, c'est beaucoup plus difficile. Et je crois que l'un des éléments qui explique que c'est beaucoup plus difficile, c'est cette idéologie de droite, très puissante dans une partie de l'opinion, un peu paranoïaque, qui s'inspire des théories de Friedrich Hayek, qui a écrit, vous en souvenez ou pas, un livre en 1944 qui s'appelle « La route de la servitude », qui a été diffusé à des millions d'exemplaires dans le monde, et qui estimait que tout ce qui est planification, organisation de l'économie par l'État, conduit inéluctablement au démantèlement du marché, des libertés individuelles, et en dernière analyse, ouvre la voie à la tyrannie. Et en la matière, il n'y a dans l'esprit de ces conservateurs, qui sont des millions, voire des dizaines de millions aux États-Unis, il n'y a qu'une différence de degré entre le New Deal de Roosevelt, les grands plans quinquennaux de Staline et le Troisième Reich. Alors, quand vous êtes dans une situation comme celle de 2008, où l'État doit intervenir, parce que le marché a failli, mais l'État doit intervenir pour sauver les banques, l'État doit intervenir pour nationaliser l'industrie automobile, et l'État se mêle d'intervenir pour transformer le système de santé, aussitôt ce ressort un peu paranoïaque qui est « on s'engage dans la route de la tyrannie » est réactivé.
Oui, parce que là, quand même, en un an de pouvoir de l'administration Obama, il y a eu quand même cette crise financière. Et là, on a pensé que les choses ne seraient plus jamais comme avant et que tout allait être bouleversé, justement parce que vous dites, c'est-à-dire que voilà, l'État intervient, renfloue, et on dit, ben voilà, c'est une occasion pour l'État de reprendre, de remettre le monstre dans la boîte.
Voilà, mais dans l'esprit des conservateurs, on oublie en quelque sorte les causes de l'intervention de l'État, la faillite du libéralisme, et on voit dans l'intervention de l'État l'accomplissement d'un dessein pervers de la gauche, mais la gauche au sens très large, qui vise justement à nationaliser l'économie et à contrôler la société. Et comme il s'agit d'Obama qui est président au moment où cette intervention a lieu, la crainte est d'autant plus forte, parce que Obama a de fait un passé de militant de gauche. Je rappelle donc dans cet article un passage de son livre qui s'appelle les rêves de mon père, où il écrit lui-même que lorsqu'il était jeune, je cite, « Afin d'éviter d'être pris pour un traître, j'ai sélectionné mes amis avec soin, les étudiants noirs les plus militants, les étudiants étrangers, les chicanos, les professeurs marxistes, les structuralo-féministes et les poètes punk rock. Nous fumions des cigarettes.
Punk rock, ça veut dire punk et rock. Hein.
Punk et rock, voilà. Nous fumions
des cigarettes. C'est un mot nouveau créé par Serge Halimi. Non, c'est punk et rock.
Punk et rock, oui, si vous voulez. Nous fumions des cigarettes et portions des blousons de cuir. La nuit, dans les dortoirs, nous discutions du néocolonialisme, de Frantz Fanon, d'ethnocentrisme européen et de patriarcat. Donc imaginez la terreur d'un militant conservateur américain au moment où cette crise économique intervient, impose à l'État d'être beaucoup plus actif, au moment où siège à la Maison-Blanche un homme qui a ce passé. Et je crois que ça, c'est une contrainte de fond, une contrainte très importante qui oblige toujours Obama à manœuvrer avec soin, à essayer de prendre des distances par rapport à son passé de militant afro-américain. Et malheureusement, quand il veut, enfin malheureusement ou heureusement, peu importe ce qu'on en pense, quand il veut tendre la main à la droite pour essayer de rassurer en quelque sorte le pays, il se heurte systématiquement à une fin de non-recevoir. Et je rappelle donc dans l'article que toutes les mesures qu'il a décidées, le plan de relance, la réforme financière ou le plan de réforme de la santé, il n'a presque à chaque fois pas trouvé un seul suffrage républicain pour le soutenir. Or, au Sénat, quand vous avez 40 sénateurs qui s'opposent à une mesure, ils peuvent faire durer la discussion indéfiniment. Il y a donc en fait une tyrannie de la minorité. Or, la minorité, elle est républicaine au Sénat, il dispose de 40 sièges, qui peut conduire à paralyser toutes les réformes d'Obama. Or, Obama, au même moment, est quelqu'un qui ne cherche pas à ressusciter la mobilisation populaire qui l'a conduit au pouvoir.
Il pourquoi cherche non
en quelque sorte...
Pourquoi? Parce qu'elle existe. Le reportage sur Détroit, dont nos amis vont parler, montre qu'il y a une mobilisation populaire. On a fait l'an passé, pour ce qui nous concerne, là-bas, si je suis des reportages un peu analogues à Cleveland, Ohio, il y a un soutien populaire formidable pour Obama.
Parce que je crois qu'il se dit qu'étant, en quelque sorte, élu président des États-Unis, disposant d'une majorité au Congrès, il doit arriver à ses fins. Et par ailleurs, il veut en quelque sorte rompre avec l'image qu'une partie des Américains a de lui, qui est celle du militant noir radical. Et donc, pour rompre avec cette image, il prend en quelque sorte une posture très institutionnelle, très centriste. Il s'exprime toujours dans la forme, c'est très frappant quand on entend ses discours, qui est « mes amis républicains pensent ceci, mes amis progressistes pensent cela, et moi je choisis la voie médiane ». C'est toujours en quelque sorte la raison froide, cérébrale, centriste, le consensus, la part du feu entre les deux extrêmes, entre guillemets.
Est-ce qu'il y a un lien entre ça et le déclin relatif des États-Unis?
Le lien avec le déclin des États-Unis, c'est évidemment que Barack Obama a le souhait de rétablir la puissance économique américaine et qu'il sait que pour rétablir la puissance économique américaine, il faut introduire de profondes réformes de structure et qu'il doit imaginer que ces réformes de structure sont inenvisageables s'il n'a pas le soutien des milieux d'affaires. Et c'est pour ça que, en permanence, depuis qu'il est élu, il a ménagé Wall Street et il a même nommé à la direction du ministère des Finances un homme de Wall Street. Donc, quand vous devez, en quelque sorte, obtenir en permanence le consentement des milieux d'affaires, ne pas trop mécontenter les républicains, éviter de rallumer la paranoïa de la droite active, eh bien, vous êtes condamné à cette posture un peu difficile qui explique, à mon sens, la première année d'Obama au pouvoir.
On continue avec le diplôme de ce mois de janvier. On va continuer avec les États-Unis, avec un reportage à Détroit, Alain Poplar et Paul Vanier. La ville qui rétrécit. Détroit, la ville qui rétrécit. On sait, on se souvient de ce qu'est cette ville de Détroit dans le Michigan. C'est, qui dit Détroit dit automobile. Or, ça, c'est fini.
C'est pas vraiment fini dans la mesure où elle continue d'être l'une des capitales de l'automobile dans le monde et continue d'abriter, au tout de moins, l'agglomération, les sièges sociaux de General Motors, de Ford ou de Chrysler. Donc ça continue d'être l'un des hauts lieux de l'automobile dans le monde. Maintenant, si on considère non pas l'agglomération mais la ville en elle-même, effectivement, beaucoup d'emplois se sont déplacés soit dans le sud des États-Unis, soit dans les banlieues et ont déserté la ville-centre de Détroit.
Vous brossez un paysage assez désolé et désolant.
Oui, puisque la ville de Détroit a perdu...
C'est qui parle là? C'est Paul?
C'est Paul, oui. La ville de Détroit a perdu plus d'un million d'habitants ces 50 dernières années, et ce phénomène de dépeuplement se poursuit ces derniers mois, sous l'effet conjugué à la fois la crise de subprime, qui a entraîné la saisie de plus de 67 000 habitations ces trois dernières années, et sous l'effet de la crise économique, qui a entraîné une considérable augmentation du taux de chômage. Alors les gens s'en vont, ils s'en vont d'abord dans les banlieues, et en effet, on en voit les effets dans le paysage. À Détroit, la ville a des allures de campagne, la végétation reprend ses droits, les friches sont immenses, les herbes hautes recouvrent les emplacements d'anciennes usines, d'anciens quartiers, et on peut s'y promener pendant plusieurs heures sans croiser personne à part quelques silhouettes.
Ouais, c'est comme dans les romans de science-fiction, hein. La nature reprend ses droits, les oiseaux reviennent, les animaux reviennent, les animaux sauvages reviennent, puis la ville disparaît, bientôt la forêt gagnera à nouveau. C'est pas mal comme fin.
C'est pas mal comme fin. Oui, s'il y avait personne qui vivait, oui, ce serait pas mal comme fin. Mais malheureusement, ça coïncide avec une misère chronique. Et le fait que la nature reprenne ses droits, ça veut dire que la politique s'est absentée. Ça veut dire que les marges de manœuvre de la municipalité sont inexistantes. Parce qu'elle est en déficit, parce qu'elle n'est plus en mesure d'assurer les services publics et les équipements collectifs qui pourraient régler, qui pourraient en tout cas améliorer le sort des gens qui vivent à Détroit, des habitants de Détroit. Donc cet abandon, cette reconquête par la nature, c'est aussi le signe d'une misère qui augmente.
Mais d'une confiance persistante, à la différence de ce que dit Halimi, une confiance persistante dans Obama. C'est-à-dire que les populations-là lui font toujours confiance.
Elles lui font toujours confiance. Alors,
en dépit des réalités, enfin en dépit des résultats.
Elles lui font confiance. Il faut rappeler que Détroit, la ville centre de Détroit a voté à plus de 97% pour Obama lors de la dernière élection présidentielle, parce que le programme du candidat, le programme économique et social du candidat, rencontrait les attentes du prolétariat urbain de Détroit, et en particulier en ce qui concerne la question de la réforme de l'assurance maladie. Une part importante de la population de Détroit est privée cette assurance maladie, et une part de plus en plus importante, puisque avec l'augmentation du taux de chômage, aux États-Unis, l'assurance maladie est associée au fait d'avoir un emploi. Une part de plus en plus importante de la population a besoin de cette assurance maladie. Donc espoir, mais cet espoir pourrait se transformer en désillusion, puisque pour l'instant, on est dans l'attente. Et c'est la patience qui domine chez les habitants de Détroit.
Jusqu'où Obama peut aller dans cette déception, Serge Halimi?
C'est-à-dire qu'il faut se...
Ce qu'on nous dit là, c'est quand même... Oui. La désillusion va être à la hauteur de ce qu'a été et l'illusion et l'ivresse de la victoire.
L'effet peut être effectivement considérable, d'autant que en 2008, les gens se sont dit, cette fois, c'est différent. Cette fois, on a un candidat qui peut profondément transformer les choses et qui en a l'aspiration.
On l'a dit ici aussi,
oui, on l'a cru. Ici, mais bon, ce qu'on pense ici a beaucoup moins d'importance aux États-Unis que ce qu'imaginaient les Américains. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont mobilisés, qui ont en quelque sorte surmonté le scepticisme que leur inspirait traditionnellement le fonctionnement politique aux États-Unis, qui se sont dit, désormais peut-être, rien ne sera comme avant. Si les choses se présentent comme étant comme avant, et encore une fois, on ne le sait pas tout à fait, parce que la réforme du système de santé n'est pas acquise, mais si elle a lieu, ce sera un plus qui ne nous apparaît pas considérable, mais à l'aune de ce qui s'est fait aux États-Unis depuis l'élection de Reagan, sera la réforme progressiste qui est intervenue depuis 1980. En même temps, c'est une réforme qui a été grignotée, en quelque sorte, par tous les bouts, par les lobbies. Ce sera encore une fois, c'est la formule que vous citiez tout à l'heure, ce sera mieux que rien, mais moins que bien.
Et pourtant, Obama s'était déclaré adversaire des lobbies.
Et Obama s'est déclaré, mais ça, tous les hommes politiques sont obligés de faire campagne en disant qu'ils sont les adversaires des lobbies, qu'une fois qu'ils seront élus à Washington, plus rien ne sera comme avant. Il s'est déclaré adversaire des lobbies, mais vous vous en souvenez, au moment de sa campagne, il a renoncé au financement public des campagnes électorales, alors que le financement public des campagnes électorales, c'était une réforme progressiste. Et lui-même y a renoncé et a mis en quelque sorte à mort cette innovation progressiste, parce qu'il pensait qu'il obtiendrait davantage d'argent grâce à des fonds privés, grâce à des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de donateurs. Et lorsque le système politique est un système politique qui dépend de l'argent privé, des dons privés, des financements des lobbies, il est évidemment très difficile de faire entendre raison aux grands groupes industriels qui financent les campagnes des représentants, les campagnes des sénateurs, Et pour Obama, la situation sera d'autant plus difficile que dans un an, maintenant, en novembre de cette année, il y aura des élections de mi-mandat et que selon toute vraisemblance, la majorité démocrate à la Chambre des représentants et au Sénat sera remise en cause et qu'elle sera moins importante qu'elle ne l'est à l'heure actuelle.
Donc les républicains ont de beaux jours devant eux.
Oui, et ils ont effectivement le sentiment d'avoir de beaux jours devant eux et de se dire quel miracle, compte tenu de la situation de dévastation qu'on connaissait au moment de la fin de la présidence Bush, un président très impopulaire, plus personne qui ne voulait être associé au Parti républicain, moins d'un an plus tard, on a opéré un certain rétablissement et on peut entrevoir l'avenir avec confiance. La seule difficulté pour les républicains, c'est qu'ils sont tellement confiants en eux-mêmes qu'ils ont tendance à mettre en avant les personnalités les plus polarisantes, les plus extrémistes, parfois les plus déraisonnables, comme Sarah Palin, qui était la candidate à la vice-présidence du ticket John McCain. Et il est possible que des candidats aussi polarisants, aussi extrémistes, ne soient pas en mesure d'attirer une majorité de l'électorat aux États-Unis. En tout cas, il faut le souhaiter.
Faut dire que les conservateurs, enfin républicains, redoublent de férocité en ce moment, redoublent de mobilisation. Si on regarde Fox News, si on notre ami Limbo.
We're going to be the home of the 2008 presidential election here. You're going to learn most of the details about the election right here.
That's here on the Fox News Channel, the network America trusts for fair and balanced news.
Barack Obama in a bathing suit.
The reason that he's considered such a big deal is simply because he's black.
He is a black candidate surrounding himself with a lot of white advisors.
Neither one of us can point to one thing Barack Obama has done for African Americans.
Well, first of all.
Well, nothing.
Fine, balanced journalism.
The senator's middle name,
Barack Hussein.
Now the news that he was raised a Muslim.
Apparently, when he was a young boy, he attended a Muslim school, a madrasa.
This is huge.
One to a madrasa.
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 That's here on the Fox News Channel, the network America trusts for fair and balanced news.
Quand on regarde Fox News, on est vraiment sur une autre planète. C'est quelque chose de très hallucinant. On a l'impression que les États-Unis, c'est 1984. C'est un pays totalitaire, que chacune des décisions d'Obama n'a qu'un objectif, c'est d'accroître le pouvoir de l'État, de réduire les libertés publiques, de soumettre les États-Unis à la tyrannie de l'Iran et des pays islamistes, d'affaiblir en quelque sorte...
Oui, les communistes, ça marche plus, mais islamistes, on va en parler, ça doit marcher pas mal.
Les communistes, ça marche plus, c'est-à-dire qu'il faut voir
que... Le logiciel est toujours là.
Ils n'ont pas besoin...
Disque dur.
Les communistes n'ont pas besoin d'être là et d'être puissants pour que cette paranoïa s'active. Je rappelais dans mon article l'un des discours de McCarthy en 1951. Il y a, pour ainsi dire, pas de communistes aux États-Unis en 1951, où ils sont très peu nombreux. Et McCarthy déclare: comment comprendre la situation actuelle si on refuse de croire que des hommes placés au plus haut échelon de l'État se concertent pour nous conduire au désastre? C'est l'effet d'une conspiration si immense qu'elle relègue au statut de nain tout ce qui l'a précédé dans l'histoire, une conspiration d'une infamie si noire que quand on l'aura dévoilée, son responsable méritera d'être à jamais maudit par tous les honnêtes hommes. Et à l'époque, il s'agit de qui? Il s'agit d'Harry Truman. Il s'agit d'Harry Truman qui est présenté comme ce sinistre, en quelque sorte, propagateur du communisme dans le monde et aux États-Unis. Donc il faut bien mesurer que la réalité n'a aucun rapport avec les discours des ultra-conservateurs et que ça n'a pas d'importance. Les discours des ultra-conservateurs ont un impact considérable auprès de millions de gens qui, eux, peut-être à la différence de la gauche, croient à la politique. Croient vraiment aux idées, croient à la politique, sont prêts à se mobiliser, sont prêts à faire du porte-à-porte, se battent, sont des vrais militants, sont des vrais combattants de la chose publique, sous une forme qu'on n'apprécie pas, évidemment, mais on ne peut pas nier, en tout cas, leur conviction et leur dévouement.
Yeah, nigga. Immortal technique. Metaphysics.
The bling bling era was cute, but it's about to be done. I'll leave you full of clips like the moon blocking the sun. My metaphors are dirty like herpes, but harder to catch. Like an escape tunnel in prison, I started from scratch. And now these parasites want a percent of my ass cap. Trying to control perspective like an acid flashback. But here's a quotable for every single record exec. Get your fucking hands out my pocket, nigga, like Malcolm X. But this ain't a movie, I'm not a fan or a groupie. And I'm not the type of cat you can afford to miss if you shoot me. Curse the heavens and laugh when the sky electrocutes me. Immortal technique stuck in your thoughts, darkening dreams. No one's as good as me, they just got better marketing schemes. I lead you to your own destruction like sparking a fiend. Cause you got jealousy in your voice like Starscream. And that's the primary reason that I hate y'all faggots. I've been nice since niggas got killed over 8-ball jackets and Reebok pumps. They didn't do shit for the sneaker. I'm a heat seeker with features that'll reach through the speaker and murder counter revolutionaries personally. Break a thermometer and force feed his kids mercury. A&R's tried jerking me, thinking they call shots. Offered me a deal and a blanket full of smallpox. You're all getting shot, you little fucking treacherous bitches. This is the business, and y'all ain't getting nothing for free. And if you devils play broke, then I'm taking your company. You could call it reparations or restitution. Lock and load, nigga. Industrial revolution.
On continue avec le Diplo de janvier. Là, on vient chez nous, là, quand même. Hein. Il y a une urgence. On connaît le péril vert qui nous menace. Hein. C'est avec la burqa, on voit la menace. On évoquait le péril rouge. On a eu le péril rouge, le péril jaune. Maintenant, c'est le péril vert. Alors, il faut nous informer, c'est ce que fait le monde diplomatique, sur cette menace. Samir Amghar, le mythe renaissant de l'islam conquérant. On sent que dans le mot mythe, il y a quand même une pointe de critique.
Oui, bien entendu, on a voulu effectivement déconstruire, on va dire, ce mythe et expliquer qu'il relève plus d'un imaginaire porté par les acteurs islamiques que plutôt une réalité qui se traduit sur le terrain. Alors moi, je me souviens, quand j'étais écolier, d'une affiche qui était placardée par une soi-disant association musulmane qui disait en gros, dans 25 ans, la France deviendra une république islamique. Et avec un peu de recul, on a appris que cette affiche était financée par le Front National. Alors on voit bien effectivement que c'est une peur, ce périvert est une peur qui est quelque chose qui n'est pas récent et qui date à mon sens du début, plutôt de la fin des années 70 avec l'émergence de la révolution islamique et le développement d'actions, on va dire, iraniennes en direction des pays européens dans lesquels des populations musulmanes vivaient. Alors on a voulu effectivement dans cet article montrer que ce mythe du péril vert repose sur trois éléments. D'une part, l'idée selon laquelle les associations musulmanes installées en France et en Europe s'inscriraient dans un projet militant, hégémonique, et
de conquête
effectivement de pouvoir. C'est-à-dire que ces associations-là, que ce soit les frères musulmans, les salafis, les tabliris, etc., sont des structures qui ont pour but, selon certains, saper les valeurs de la République et tester la République sur certains points qui définiraient quelque part l'identité première de la République. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve effectivement avec le voile intégral, où les hommes politiques ou certains journalistes considèrent que les salafis, ceux qui sont quelque part les promoteurs du voile intégral, sont ici en France pour tester la République et pour in fine islamiser la société française.
Et qu'est-ce que vous avez constaté que c'est pas vrai tout ça?
Alors effectivement, c'est vrai dans une certaine mesure, dans la mesure où c'est quelque chose qui est défendu par les prédicateurs et par les acteurs eux-mêmes, en disant effectivement nous sommes en France, nous détenons la vérité, nous avons l'islam comme vérité et nous voulons la partager à un maximum de personnes. Or, dans la réalité, on s'aperçoit que même si...
Mais c'est le cas aussi des militants de la scientologie ou même des prêtres catholiques.
Effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas du tout propre à l'islam ou aux militants musulmans. C'est quelque chose qui est partagé par tout groupement religieux qui considère qu'il détient la vérité. Alors...
Ça s'appelle le prosélytisme que ça est en train de décrire là. Est-ce que ça menace la République, ce prosélytisme?
Alors, à mon sens, non. Pourquoi? Parce qu'en pratique, on s'aperçoit que le prosélytisme religieux de type islamique, bien qu'il soit présent dans les quartiers populaires, a du mal à séduire et ne crée pas une sorte de prédication de masse. Si l'on prend le cas des conversions à l'islam, donc des personnes n'appartenant pas originellement à cette religion et qui se convertissent à l'islam, il y aurait à peu près chaque année 4000 personnes qui se convertiraient à l'islam. Donc si on calcule, il faudrait quelques milliers d'années avant que la France devienne entièrement musulmane. Donc on voit effectivement que c'est un prosélytisme qui est effectivement très présent et très prégnant dans le discours des acteurs islamiques, mais qui a du mal à se développer en dehors du cadre des musulmans sociologiques.
Il y a aussi ce que vous appelez l'islam de marché.
Alors oui, l'islam de marché, effectivement, est quelque chose qui est un peu différent de cet islam de prédication. C'est un islam qui reposerait en gros sur des valeurs économiques empruntées au néolibéralisme. Autrement dit, on s'aperçoit qu'effectivement qu'il y a des affinités électives entre les porteurs de cet islam de marché et tout le système économique capitaliste. C'est-à-dire qu'on va avoir affaire à des personnes qui ne remettent pas en cause le système capitaliste et considèrent qu'ils sont les meilleurs défenseurs de cette manière de voir l'économie. Alors ce sont des personnes qui vont se lancer dans le business, qui vont ouvrir des marques de vêtements. L'exemple peut-être le plus intéressant, c'est l'exemple d'une personne d'origine tunisienne qui s'appelle Toufik Matlouti, qui a créé un Coca-Cola qui s'appelle le Mecca-Cola et qui a pour but d'être un produit alternatif au Coca-Cola et un moyen de résister contre l'hégémonie américaine. Alors on s'aperçoit effectivement que l'objectif de cet individu est à peu près le même que les responsables de la firme Coca-Cola, dans la mesure où l'objectif est de maximiser un maximum de profits et d'apparaître comme un Coca plutôt très important sur le marché économique français.
Ouais, c'est une niche économique comme une autre.
Voilà, c'est une niche économique à partir d'un registre religieux et qui se développe un peu partout, à la fois dans les vêtements, dans l'alimentaire, etc., etc.
Oui, mais quand on parle de l'islam, l'islamisme, l'islam politique, l'islam prosélyte, comme vous le décrivez, on met de côté les différences qui peuvent exister entre un émir qui descend dans un palace parisien et puis les jeunes des banlieues de Clichy-sous-Bois. On fait comme s'il n'y avait pas de riches et pas de pauvres dans cette histoire.
Alors effectivement, l'idée de l'islam conquérant impliquerait quelque part que les musulmans représentent une communauté unie qui n'est pas du tout traversée par des clivages.
Et qui serait tout à fait isolée, quoi. Il y aurait un cas où il n'y aurait pas de sociologie possible à faire.
Voilà, alors qu'en réalité, on voit que la communauté musulmane installée en France et en Europe est travaillée par des clivages, par des divisions économiques, politiques, sociales, économiques. D'un point de vue politique, c'est quelque chose d'assez révélateur, dans la mesure où on voit que c'est porteurs ou ces militants islamiques, du moins ceux appartenant à la tendance des frères musulmans en France, ont une affinité élective avec la droite française, ouais. ou le centre droit.
C'est ça.
Moi, je me souviens d'une discussion.
C'est-à-dire que les frères musulmans, c'est un peu les bourgeois de ce monde, de cet univers.
Exactement. Moi, je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec un responsable frère musulman avant les élections présidentielles en France en 2007, et qui me disait, voilà, tout simplement, je vais voter pour François Bayrou. Et il me disait, voilà, moi je vote pour François Bayrou parce que c'est une personne qui a un discours dans lequel je me reconnais. Et la gauche, le discours de la gauche portant sur les banlieues n'a fait que créer que des générations d'assistés. Donc c'est un discours qu'on retrouve parfaitement
à
droite.
Oui, bien sûr.
Et chose très intéressante, c'est que les représentants français des frères musulmans sont en grande majorité tous en cartel UMP. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement on a cet islam belliqueux, mais qui a des affinités électives avec le centre droit ou la droite française.
Voilà, donc finalement il y a une intégration qui se fait, mais qui est une intégration de classe.
Exactement.
Et qui laissera tomber le moment venu les voiles, les barbes et les burkas.
Je ne pense pas qu'on va laisser le voile ou la barbe ou la burka. Si vous voulez, ces militants ou les frères musulmans d'une manière générale sont un peu l'équivalent des chrétiens démocrates.
Ouais,
et donc ce sont des individus qui vont considérer que l'on peut parfaitement s'intégrer à la société française tout en ayant une lecture orthodoxe et rigoriste de l'islam. Et pour eux, c'est quelque chose qui cohabite parfaitement. L'un ne va pas sans l'autre. Et les deux sont imbriqués l'un avec l'autre.
Mais il n'y a pas de péril vert.
Simplement dans les textes.
La base, c'est celui. Écoutez, la base, c'est celui.
On continue avec le diplôme de janvier et avec Maurice Lemoine qui s'est penché sur, enfin pas lui directement, mais sur ce qui se passe au Brésil, Maurice Lemoine.
Oui, non, le Brésil, c'est un article qui a été fait par Lamia Wallalou, qui est une journaliste qui vit au Brésil. Et malgré mes demandes insistantes, vous avez refusé d'aller l'interviewer là-bas. Hein, sous des prétextes assez fallacieux d'ailleurs, hein, Daniel Mermet, il fait trop chaud à Rio, j'ai peur en avion, j'aime pas la feijoada, etc., etc.
Et pourtant donc, le billet a été payé par le diplôme. Et
pourtant le billet a été payé par le diplôme. Donc je vais me faire l'interprète de Lamia Wallalou, ce qui est pas compliqué parce qu'elle parle parfaitement le français. Bon, le Brésil, grande puissance émergente. On le voit dans les sommets du G20, on l'a vu récemment au sommet de Copenhague. C'est en particulier lié à la personnalité du président actuel, Luiz Inácio Lula da Silva. C'est lié à Lula parce que Lula, on le sait, c'est un ancien syndicaliste dans les années 80, à l'époque de la dictature. Et Lula, c'est un personnage assez particulier qui considère qu'il faut discuter avec tout le monde, qu'il faut arriver à un bon accord, même s'il y a eu un bras de fer auparavant. Et puis, comme au bon vieux temps, on peut ensuite aller boire un whisky avec le patron. Et c'est vrai que sa politique, d'une certaine manière, elle ressemble un petit peu à ça. Alors, elle donne parfois le sentiment qu'il y a un grand écart. Hein. Par exemple, lorsqu'il est intronisé le 1er janvier 2003, l'accueil le plus chaleureux, il le réserve à Fidel Castro. Fidel Castro, ça peut paraître bizarre depuis l'Europe, mais il faut bien comprendre qu'en Amérique latine, Cuba n'a pas la même image qu'ici chez nous. Hein. C'est un symbole en Amérique latine, Cuba. Mais en même temps, les mois suivants, il va afficher une véritable entente avec George Bush, hein, en particulier sur les agrocarburants, qui sont très contestés en Amérique latine, et pas qu'en Amérique latine, où en fait la logique consiste à utiliser les terres agricoles pour nourrir des automobiles plutôt que des humains. Hein. Bon, donc on va avoir en permanence ce dualisme, hein, c'est-à-dire qu'il est copain avec Chavez et il s'entend bien avec Bush. En même temps, sur le plan géopolitique, sur le plan de la diplomatie, sur le plan économique, le Brésil va donner, qui est une grande puissance, hein, qui est la seconde puissance sur le continent américain, qui est une puissance régionale, va donner la priorité à l'Amérique latine, bien sûr, mais aussi à des pays traditionnellement oubliés par le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde, la Chine, la Russie. Il faut savoir qu'actuellement, la Chine a remplacé les États-Unis comme premier pays importateur de produits brésiliens. Il y a une partie de la population brésilienne qui applaudit cette orientation de Lula, c'est le patronat, c'est les patrons. Hein. Les patrons parce que cette politique va de pair avec l'expansion des multinationales brésiliennes, qui eux, évidemment, ont vu leur exportation, leurs investissements à l'étranger exploser. Hein. Si vous n'étiez pas votre micro en face de mes notes, je pourrais les lire plus facilement. Alors, en même temps, cette situation, elle provoque des tensions. Parce que c'est vrai que le Brésil est aussi vécu en Amérique latine, en Amérique du Sud en particulier, comme une puissance hégémonique. On a souvent connu, enfin on a toujours connu le Brésil comme un gentil géant, mais c'est vrai que son expansion économique provoque des problèmes. En Argentine, on se plaint de l'invasion des produits brésiliens. En Bolivie, les grands propriétaires des terres orientales ont passé une alliance avec l'opposition à Evo Morales. Donc tout ça provoque des tensions. Et en fait, Lula a toujours réussi à apaiser ces tensions. Par exemple, au moment où Evo Morales en Bolivie a nationalisé les hydrocarbures, et donc a porté atteinte aux intérêts de Petrobras, la droite brésilienne s'est déchaînée et a quasiment demandé une intervention militaire en Bolivie contre ce président bolivien, ce petit indien de merde, hein, pour dire comme on parle au Brésil. Et Lula a finalement estimé et dit et négocié en disant « la Bolivie a parfaitement le droit de remettre la main sur ses ressources naturelles ». Et puis il y a évidemment les relations avec la gauche radicale. Hein, on a souvent une image un petit peu surfaite, diviser la gauche latino-américaine entre les radicaux et les modérés, Lula c'est le bon, Chavez c'est le méchant. Or en réalité les deux s'entendent comme larrons en foire. Ils ont toujours résisté à la tentative des États-Unis, mais même d'ailleurs des Européens, d'enfoncer un coin entre le radical Chavez et le modéré Lula, et ils ont créé une solide alliance, et en particulier, ils sont tous les deux, il faut le dire, le Brésil et le Venezuela, la clé des principales institutions qui se sont créées ces derniers temps, en particulier l'Union des Nations Sud-Américaines, hein, le UNASUR, qui regroupe 12 pays latino-américains, sans les États-Unis, et qui, d'une certaine manière, maintenant, fait concurrence à l'Organisation des États américains, qui, avec son siège à Washington, a toujours donné le sentiment, qui d'ailleurs n'était pas illégitime, qu'il s'agissait du ministère des Affaires étrangères des États-Unis. Donc on a là une particularité de la politique de Lula.
Justiça, que justiça, se é sempre a mudança, entupindo a visão. justiça, incumprindo as prisões. Justiça, que justiça, se é sempre a polícia, incumprindo as prisões.
Janvier du monde diplomatique, tout ce qu'on vient d'entendre jusque-là, c'est laborieux, c'est long, il faut des développements, des citations, des dates, etc. Alors que on peut faire beaucoup plus court et beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus spectaculaire, Pierre Rimbert. Vous revenez une fois de plus sur la lumière de l'intelligence française. Bernard-Henri Lévy, l'homme qui ne s'est jamais trompé.
Oui, Bernard-Henri Lévy, alors là, vous avez prononcé le mot et tout de suite, si Père Dieu se lève au ciel, hein, encore lui. Pourquoi encore lui? Et oui, encore lui, d'abord parce qu'en décembre dernier, au moment où Barack Obama a annoncé l'envoi de 30 000 soldats supplémentaires en Afghanistan pour essayer de gagner ou du moins de ne pas perdre une guerre engagée depuis 8 ans, le monde diplomatique est retombé sur un document amusant, un document de Bernard-Henri Lévy, un texte intitulé « Lettre à ceux qui se sont trompés ». Alors, c'est un texte publié dans Le Point en novembre 2001, peu après...
C'est pas un document secret, vous avez...
C'est un document tout à fait public, hein. Mais vous connaissez le principe, hein, une chronique en enterre une autre, un texte en enterre un autre...
L'encre sèche vite.
Voilà, il oublie...
C'est de BHL, ça, cette phrase.
Le tout. Et dans cette chronique, BHL s'adresse aux opposants à l'intervention américaine en Afghanistan. Je le cite. Vous disiez, le bourbier américain, les Américains sont enlisés. Jamais l'armée américaine ne saura venir à bout de ce nouveau Vietnam que sont les plaines et les montagnes d'Afghanistan. Quelques semaines, parfois quelques jours après ces considérations définitives, c'est la chute de Kaboul, la débâcle sans gloire des talibans et la victoire éclair d'une stratégie que nous n'étions pas bien nombreux à juger d'une habileté et d'une efficacité militaro-politique insoupçonnée. Fin de citation. Efficacité militaro-politique insoupçonnée. 8 ans plus tard, il faut noter que même le Pentagone et l'état-major américain ont conclu que cette stratégie de George Bush et de Bernard-Henri Lévy conduisait à l'échec et n'était en tout cas pas la bonne. Alors bon, vous allez me dire, tout le monde peut se tromper.
Voilà.
Mais il y a l'art et la manière de se tromper. Quelques semaines après cette déclaration fracassante, BHL écrivait dans le Monde pour regretter que les talibans, je le cite encore, aient détalé comme des poulets, sans même un baroud d'honneur. On aurait espéré qu'ils se battent jusqu'au dernier. C'est toujours plus confortable quand on est boulevard Saint-Germain d'exiger que les gens combattent jusqu'au dernier souffle. Et on imagine que la résistance que les talibans opposent aujourd'hui à la coalition de l'OTAN doit enchanter BHL. Mais là encore, tout le monde peut se tromper. Mais je crois qu'en la matière, il faut saluer une espèce de maestria de notre intellectuel national qui concluait sa lettre à ceux qui se sont trompés par ces mots, je le cite, « Je ne veux accabler personne. Et si je rappelle cette cascade d'erreurs, c'est moins pour confondre tel ou tel que pour exhorter, dans les semaines qui viennent, à plus de modestie. Donc, à bon entendeur, salut. Alors, vous me dites peut-être, à quoi est-ce que ça sert tout ça, de relever toutes ces erreurs,
oui.
Les fumées, les fanfaronnades,
oui.
Parce que, après tout, BHL a été démenti par les meilleurs spécialistes dans à peu près tous ces domaines d'intervention.
7 livres écrits sur BHL.
Des biographies critiques, toutes ces contradictions.
Des critiques de Pierre Vidal-Naquet, de Cornelius Castoriadis et de quelques autres.
Et pourtant, les médias continuent à faire appel à lui à tout propos. On commémore en ce moment le 50e anniversaire de la mort d'Albert Camus. Et que se passe-t-il? Le Monde publie un supplément hors série dont la couverture annonce quoi? Annonce un texte de Bernard-Henri Lévy sur Albert Camus. Car au fond, Bernard-Henri Lévy, c'est Camus. C'est Camus, puisqu'il est...
Je croyais que c'était Sartre, non, mais...
Et voilà, c'est tout le principe. Il y a 10 ans, il écrivait sur ça.
Je suis dans une confusion, moi. Heureusement qu'on se voit ce matin.
Et puis, il y a 22 ans, BHL écrivait sur Baudelaire, donc c'était Baudelaire. Et ça facilite la constitution des bibliothèques, puisqu'après tout, en philosophie, en littérature, en poésie, vous n'avez qu'un seul auteur à ranger sur vos rayonnages, c'est BHL. Jusque-là, il n'y a rien de nouveau. Ce qui semble... différer un peu de la situation précédente, c'est que l'audience de Bernard-Henri Lévy dépasse maintenant largement les frontières nationales. Il faut savoir que ces chroniques du Point, qui sont publiées chaque semaine, sont traduites dans le quotidien espagnol El País, chaque semaine, qu'elles sont également reprises, traduites et publiées sur le site politique américain, le Huffington Post, qu'en décembre dernier, la revue américaine Foreign Policy adresser la liste des 100 personnalités, des 100 principaux penseurs internationaux de l'année 2009, et qui trouve-t-on au 31e rang, premier français, donc ça n'est pas rien, c'est Bernard-Henri Lévy, pour, je cite la revue Foreign Policy, sa critique magistrale des échecs de la gauche dans la vieille Europe. Oui. J'ajoute enfin que Bernard-Henri Lévy est aussi présent sur Internet. Vous savez, il y a encore quelques mois, lorsque vous tapiez dans un moteur de recherche le nom de Bernard-Henri Lévy, les premières occurrences étaient des références systématiquement critiques. Et jusqu'à la 10e page, il y avait énormément de textes relevant les erreurs, les approximations, les échecs de Bernard-Henri Lévy.
Et autres retartages.
Et aussi des vidéos de retartages tout à fait spectaculaires. Désormais, Bernard-Henri Lévy dispose d'un site internet qui concentre à peu près toutes les critiques favorables et défavorables qui ont été émises sur son œuvre, qui est réalisée par une universitaire américaine dévouée de manière quasi sacerdotale à la propagation, à la dispersion sur toute la terre de l'œuvre de Bernard-Henri Lévy. Elle l'explique d'ailleurs. Et ce site, qui est techniquement sans doute très au point, apparaît dès les premières occurrences lorsque vous tapez Bernard-Henri Lévy dans un moteur de recherche. Donc là aussi, Internet, qui dans le cas de Bernard-Henri Lévy était un lieu où la critique dominait, commence en quelque sorte à être reconquis, à être considéré comme suffisamment important pour faire l'objet d'une tentative de reconquête par des intellectuels dominants, comme c'est le cas pour Bernard-Henri Lévy. Au fond, ce qui est peut-être moins anecdotique, c'est que Bernard-Henri Lévy, aujourd'hui, sa présence médiatique renouvelée, on va encore beaucoup parler de lui c'est dans les jours qui viennent, puisqu'il prévoit de publier 2 livres en février, peut-être même que sur cette antenne, dont le directeur Philippe Val est un proche de Bernard-Henri Lévy, des commentaires plutôt favorables pourraient être émis, c'est une hypothèse. Mais
favorable, c'est pas certain.
Ça n'est pas certain, justement, c'est pour ça qu'il faut employer le conditionnel.
Vous dites ça.
Mais il me semble que cette présence toujours renouvelée symbolise une concordance, une affinité entre, d'un côté, un mode de gouvernement politique qui est dominé par la communication, par les effets de manche, par raconter des histoires, et puis, de l'autre côté, une forme d'intervention publique qui cantonne les intellectuels au débat de diversion. Et là, la recette est simple, les ingrédients sont connus. Vous prenez un sujet de société, l'islam, Roman Polanski, l'identité nationale. Vous prenez les pétitionnaires habituels, qui sont toujours survoltés, et vous mélangez le tout. Et qu'observe-t-on? Les pétitionnaires vont multiplier les interventions, les déclarations, les tribunes, les meetings, pour proclamer, urbi et orbi, qu'il s'agit d'un faux débat. Vous voyez le paradoxe. Chacun va s'employer à proclamer l'inanité d'un débat qu'il contribue et qu'il s'empresse d'alimenter. D'ailleurs, le nombre de tribunes signées dans la presse par des intellectuels pour que cesse le débat sur l'identité nationale est proprement sidérant. D'ailleurs, je vous laisse découvrir le titre de la dernière chronique de Bernard-Henri Lévy dans Le Point, daté du 7 janvier. Hein, Daniel Mermet, vous pouvez la lire.
Pourquoi il faut arrêter le débat sur l'identité nationale? Ça fait une page entière. Edwige Plenel a fait la même chose avec Mediapart.
Voilà, et ce débat s'alimente, ce débat se répand, et tout cela n'est pas pour déplaire au pouvoir. Selon Le Canard Enchaîné du 30 décembre dernier, le président de la République aurait récemment confié à propos de la controverse sur l'identité nationale, je le cite, « À 2 mois des régionales, c'est un os qu'on envoie à ronger aux médias et à l'opposition. Tout le monde y va de sa petite phrase, tout le monde s'excite là-dessus, on ne parle plus du reste, de la situation économique et sociale, du chômage et de la crise. »
Et la suite, c'est dans le numéro du Monde Diplomatique de ce mois de janvier. Merci à tous, à Serge Halimi, Samir Amgar, Alain Poplar et Paul Vanier et Pierre Rimbert et Maurice Lemoine. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis, vous pouvez réécouter cette émission et faire tous les commentaires que vous voulez. Ou bien sur là-bas.org, là-bas.org, même jeu, écoute possible et commentaire attendu et souhaité. À la technique aujourd'hui, Gilles Gaillard et Gaël Braouezek, Coy Nguyen et Raphaël Moutère ont réalisé cette émission, assistée d'Agnès Lebot et Catherine Pinto. Attends vos messages au répondeur de la base où j'y suis, dont le numéro, vous le savez bien, est le 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.
C'est beau ce bruit. Tous ces millions qu'euros millions mettent en jeu vendredi. Près de 41 millions d'euros. 41 millions. Et c'est qui va ramasser tout ça?
Estimation non garantie des gains à partager en 1 voire règlement.
Il n'y a que Euromillions pour gagner autant de millions.
FTJ.
16h sur Inter. On se retrouve demain à 15h dans la base. Si j'y suis, on ira dans les backwaters du Kerala. Il y a un auditeur qui dit, ah, vous avez dû y aller, mais vous en êtes pas vanté. Bon, pas sans vanter. Demain à 15h dans la base. Si j'y suis, je vous laisse pour les infos avec Angélique Bois. Salut.
Stupéfaction ce matin à Quimper après la découverte d'un vol de vaccins contre la grippe A. Un ou plusieurs cambrioleurs ont brisé une fenêtre du centre de vaccination de la ville et emporté 8 boîtes comprenant chacune 80 doses de Panenza ainsi que des dizaines de flacons d'adjuvants. La préfecture du Finistère appelle la population à ne pas accepter de se faire vacciner autrement que par des professionnels de santé. Pour ce qui est de la vaccination justement dans les cabinets généralistes, elle pourrait débuter dès la semaine prochaine, peut-être mardi, c'est ce que veut en tout cas le ministère de la Santé. La discussion a été difficile cependant avec certains syndicats de médecins. Le CSMF, le principal syndicat de médecins libéraux, juge excessives les formalités prévues et insuffisantes la rémunération envisagée de l'ordre de 6,60 euros par vaccin effectué hors de toute consultation. Selon son président Michel Chassang, il dénonce, je cite, une humiliation de plus. Pour la 8e année consécutive, le nombre de tués sur les routes en France est en baisse, très légère, mais tout de même 4262 personnes ont perdu la vie l'an dernier, c'est 13 de moins qu'en 2008. A signaler cependant une forte baisse du nombre d'accidents, il passe de 74 000 à 68 000 et l'on note moins 10% environ de blessés donc sur les routes. En Tunisie, le président Ben Ali exprime sa profonde tristesse après le décès de Philippe Séguin, un ami personnel et un fidèle ami de la Tunisie, son pays natal, a-t-il dit, en saluant un illustre homme politique et intellectuel. En France, les réactions sont unanimes dans la classe politique, elles se sont succédé toute la journée. C'est un parcours républicain d'exception qu'il faut saluer, dit Christine Lagarde, la ministre de l'économie. Ses qualités intellectuelles autant que son sens de l'État en ont fait un grand premier président de la Cour des comptes. Même si nous ne partageons pas les mêmes idées, je voudrais dire mon respect pour le travail du président de la Cour des comptes, indique également de son côté la communiste Marie-Georges Buffet. Philippe Séguin a succombé la nuit dernière à son domicile parisien à une crise cardiaque. Il était âgé de 66 ans. Ses obsèques auront lieu lundi prochain. L'Italie cède à son tour à la tentation des scanners corporels. Ils seront expérimentés au plus tard dans 3 mois à Milan, Rome et Venise. Décision prise alors que se tient justement à Bruxelles une réunion d'experts européens en sécurité aérienne. Ils réfléchissent à l'opportunité de recommander ou non l'installation de ces scanners dans les aéroports européens. Et cela à la suite bien sûr de l'attentat manqué contre un avion de ligne américain le jour de Noël. Après avoir semé la pagaille dans le nord et l'ouest du pays, la neige est désormais attendue dans le sud et les Alpes demain. Très forte chute de neige attendue. Météo France a placé une vingtaine de départements en vigilance orange jusqu'à samedi 2h du matin. La neige qui ne serait pas à l'origine de cette nouvelle panne qui a affecté l'Eurostar, un train avec 260 passagers est resté bloqué 2h ce matin sous la Manche. Le trafic à cette heure-ci est redevenu normal. Des soucis en revanche dans les aéroports à Orly, notamment il y a des retards. Les aéroports de Brest, Caen et Le Havre sont fermés.
On aura tout vu sur France Inter, inviter un acteur en liberté totale.
Écoute ce qu'il dit. Hein?
Benoît Poulvorde.
Écoute ce qu'il dit. Non, t'écoutes pas ce qu'il dit, tu fais l'imbécile avec ce chien. Alors t'écoutes ce qu'il dit, je te paye pas un entraîneur pour faire le couillon, hein?
Christine Masson.
Cinéma!
Laurent Delmas.
Cinéma! Oui, je sors, je suis.
Demain à 17h.
Cinéma!
France Inter et le Théâtre de la Commune d'Aubervilliers présentent du 7 au 28 janvier Sous l'œil d'Oedipe, écrit et mis en scène par Joël Joanneau avec notamment Jacques Bonafé.
Le peuple est élastique. Un jour il te fait roi, le lendemain tu es sa cible. Tu as bien un détail, un seul sur quoi tabler.
Les énigmes c'est ton lot.
Retrouvez Sous l'œil d'Oedipe dans les émissions de France Inter.
France Inter. La différence.
Il est 16h04, je vous retrouve à 17h, je vous laisse en compagnie de Frédéric Lodéon, bonjour.
Bonjour Angélique.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Avant d'aborder les révélations des victoires de la musique, les jeunes artistes, notre Star Academy à nous, et ce sont les artistes lyriques aujourd'hui, des nouvelles du Nord, comme je l'ai promis hier, ça bouge dans le Nord, ben demain, vendredi au Nouveau Siècle à Lille, il y aura Jean-Claude Casadesu avec l'Orchestre National de Lille, et le très grand violoniste Augustin Dumay, des œuvres de Beethoven, le concerto pour violon, et puis Ma mère Loi, pièce enfantine de Ravel, L'oiseau de feu Stravinsky, c'est dans une série qui s'appelle Contes et légendes, et puis même concert le 11 janvier, toujours au Nouveau Siècle, Augustin Dumay, Jean-Claude Casadesu, et puis avec un petit changement à Bruxelles, au Palais des Beaux-Arts, fameux endroit aussi pour la musique, le jeudi 14 janvier, Jean-Claude Casadesu, Augustin Dumay et Amandine Savary qui va jouer le premier concerto de Maurice Ravel. Et puis j'avais commencé à vous parler hier un peu vite du conservatoire, comme c'est aujourd'hui, j'insiste, conservatoire de Lille, c'est à 18h30 à l'auditorium, c'est place du concert aujourd'hui, donc confrontation entre une œuvre célèbre, la truite qu'un tête de Schubert qui met bien en valeur la contrebasse, et la contrebasse est aussi dotée d'une œuvre toute récente de Frédéric Boulard, ça s'appelle Ukiyo-e, ou Image d'un monde flottant, contrebasse et piano, et l'héroïne à la contrebasse, parmi les autres artistes, ce sera Catherine Ray. Voilà, ça c'est pour la musique qui est en cours, là, qui se fait, et puis il y a ces jeunes artistes qui jouent une partie de leur carrière, ils ont auditionné devant, ils ont même chanté ou joué carrément devant un public très connaisseur à la Maison de Radio France le 17 décembre. Et puis maintenant, c'est à vous de juger. Alors hier, c'était les instrumentistes. Je donnerai tous les détails, bien sûr, après pour les votes. Et aujourd'hui, les chanteurs. Une chanteuse pour commencer, Isabelle Druet, mezzo-soprano, née en 79, le Conservatoire de Paris, premier prix de chant à l'unanimité, avec les félicitations du jury, plein de distinctions, aussi bien au concours Isabelle de Belgique qu'à l'ADAMI, l'association Administration pour les droits des artistes, musiciens et interprètes. En 2007, elle chante la Péricole d'Offenbach, Eugène Onegin de Tchaïkovski, elle chante aussi dans le Barbier de Séville, bon, elle va être à l'Opéra Comique en février, elle a aussi chanté sous la direction du très remarquable chef et ancien chanteur René Jacobs, la flûte enchantée, s'il vous plaît. Bref, elle est une excellente comédienne, voici Isabelle Druet, tout de suite dans la Séguédille, c'est près des remparts de Séville, de Carmen, de Georges Bizet, une pièce bien connue, bah, dont José est obligé de l'attacher, parce qu'elle a fait pas mal de bêtises et de violences. violence, donc il l'a conduit en prison, il lui a interdit de parler, alors elle chante pour le provoquer près des remparts de Séville. Chez mon ami Lila Spastia, j'irai danser la Seguedille et boire du Manzanilla, c'est un vin assez capiteux, et voilà, donc elle se moque de lui, elle dit qu'elle avait un amant mais qu'il a disparu, donc elle est libre pour les suivants, provocation sensuelle s'il en est.
Je dis d'allons à la douzaine, mais ils ne sont pas.